Et bonjour tout le monde, bienvenue pour la dernière de Stéréo Meuf, présentée par Miska et moi-même Audrex. Alors aujourd'hui au sommaire, du fun, de la légèreté, de la rigolade, de la grosse poilade et plein de bonnes nouvelles positives. Allez, on commence l'édito avec cette fois-ci, pour la dernière, Anouk.
Définition du nom masculin féminisme. Petit 1. Mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Petit 2. Attitude de quelqu'un qui vise à étendre ce rôle et ses droits des femmes, un féminisme actif. Petit 3. État d'un individu du sexe masculin présentant des caractères de féminité plus ou moins marqués, développement des seins et des hanches, absence de barbe, finesse de la peau, etc. On attribue cet état à l'absence ou à l'insuffisance des sécrétions internes testiculaires. Bref, ça c'est la définition de Larousse. Mais après, le féminisme, c'est quoi ? Des actes ? Des paroles ? Des opinions ? Des attitudes ? Des clichés ? Est-ce que c'est provoquer les hommes ? Est-ce que c'est nous rendre indispensables ? Est-ce que c'est montrer nos poils sous les bras et aux jambes et garder sa moustache ? Est-ce que c'est mettre des jupes courtes ou plutôt des joggings ? Est-ce que c'est revendiquer notre part de masculinité ou au contraire la rejeter ? Est-ce que c'est savoir monter un meuble Ikea sans son mec à côté ? Est-ce que c'est être cultivé ? Est-ce que c'est montrer ses ins ? Est-ce que c'est planquer au fond du sac ses tampons et ses serviettes ou au contraire les exhiber à la vue de tous ? Mettre du vernis à ongles et du mascara, c'est être féministe ? Est-ce que c'est ne pas avoir d'enfant ou au contraire en avoir toute une barbée ? Est-ce que c'est toujours prouver de quoi on est capable ? Est-ce que c'est être carriériste ? En fait, c'est quoi être féministe ? Au 1er janvier 2015, en France, l'INSEE a compté 34 191 678 femmes et 32 126 316 hommes. Et oui, parce que le féminisme, ça ne concerne pas que les femmes. Enfin, c'est mon opinion. Et ma deuxième question, c'est est-ce que nous avons tous la même vision de ce qu'est être féministe ?
Away.
C'est toujours Stéréomeuf. Alors, Mystika.
Alors, moi, je voulais juste vous lire une petite citation, puisque Anouk a fait son édito sur, on dira, ce qu'est le féminisme, quelque part, du moins ce qu'elle elle en pense, ce qu'est le féminisme à ses yeux. Eh bien, j'ai un petit truc très court de Virginie Despentes. On dit Despentes, je me suis toujours demandé.
Oui, on dit Virginie Despentes.
On dit Despentes. Pas Despentes.
Donc, qui est une auteure lyonnaise, hein, qui a écrit pas mal de romans, dont beaucoup ont même été... primé, je crois. Enfin, bon.
C'est un peu trash. Hein,
c'est trash. Ouais. C'est underground.
Je crois qu'elle vient d'en sortir. Il y a pas
elle
très
est,
longtemps.
Elle est lesbienne, militante féministe. Voilà. Je t'écoute.
Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Voilà, je trouvais, je sais pas, je l'aime bien cette définition. Et bien nous, quand on parle de féminisme, certaines fois, on parle de choses légères. Mais c'était rare, hein, sur toutes ces saisons-là, depuis le mois de janvier. Et parfois, assez souvent, on a parlé de sujets très, très importants pour le droit des femmes et le droit de l'être humain en général.
Et malheureusement, pas très gai, hein.
Oui,
souvent.
C'est vrai qu'on a souvent plombé un peu l'ambiance,
c'est ça,
mais bon, c'est la réalité, c'est le quotidien.
Au départ, le concept de l'émission, c'était quand même de faire un truc un peu genre faire des grands écarts entre les viols au Congo et un article sur les poils. Et puis finalement...
On a eu du mal.
On a eu du mal.
Ce qui se comprend.
Voilà.
Donc voilà, moi je voulais juste... Donc aujourd'hui, justement, on fait l'option fun et bonne nouvelle. Voilà, ça nous changera. Donc dans les bonnes nouvelles sur un sujet déjà traité dans cette émission, qui est donc l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, une bonne nouvelle là du mois de mars, il y a quelques mois, les députés ont voté la suppression du délai de réflexion de 7 jours qui était donc obligatoire entre la première et la deuxième consultation pour obtenir une interruption volontaire de grossesse. Voilà, ça a été donc examiné en commission des affaires sociales du projet de loi sur la santé au mois de mars dernier. Voilà. Catherine Coutel, présidente de la délégation aux droits aux femmes de l'Assemblée, avait, elle, affirmé que ce délai était infantilisant et stigmatisant. Voilà. Et eux, et les opposants, eux, affirmaient qu'ils pouvaient
entraver... C'était histoire un peu de te mettre le doute, si tu veux.
Mais oui, bah oui.
Entre le moment où tu vas voir le médecin et que tu dis, docteur, je voudrais me faire avorter, puis le moment où tu as le droit de le faire, donc ce délai de 7 jours. Voilà.
Ce qui était un petit peu compliqué, c'est que ça pouvait parfois effectivement entraver l'accès à l'IVG dans les régions où pendant certaines périodes où il est difficile d'obtenir des rendez-vous et donc amener des femmes à dépasser la période légale de 12 semaines, etc. Voilà, c'était un peu compliqué. Le sujet a été beaucoup, beaucoup discuté. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y avait des dispositions concernant cette loi précise, elles étaient remises en débat. L'amendement a lui-même suscité un débat. C'était un peu compliqué. Et ils ont été obligés de revenir sur le sujet plusieurs fois. Mais bon, la ministre de la Santé, donc Marisol Touraine, elle s'est opposée à la mesure. Elle se déclarait favorable à un seul raccourcissement de la période de 7 à 2 jours. Bon, alors 48 heures. Elle disait « Je ne suis pas certaine que ce soit par la suppression de ce délai que nous fassions progresser l'accès aux droits. » C'est ce qu'elle expliquait. Elle disait que le passage de 7 à 2 jours avait été déjà envisagé. De la présentation d'un plan de d'amélioration de l'accès à l'IVG. Et puis finalement, il avait été retiré en catastrophe parce que bon, ils se sont dit que ça allait peut-être être encore ça allait risquer encore la polémique. Voilà. Donc c'était un peu compliqué tout ça, mais ça a finalement été approuvé et le délai donc de réflexion a été supprimé.
Ben, concernant l'IVG, moi j'ai une bonne nouvelle aussi. Au Maroc, le ministre de la Santé se déclare favorable à l'avortement. Et même le roi M6, dit donc. Donc le débat sur l'avortement au Maroc a franchi une étape avec la prise de position du ministre de la Santé en faveur de la libéralisation de l'avortement. La femme devrait disposer de son corps, explique El Hossein Louaradi, dans un entretien à l'hebdomadaire Tel Quel, paru vendredi 8 mai dernier. Le fléau que constituent les centaines d'avortements clandestins pratiqués chaque jour au Maroc a ressurgi dans l'actualité au début d'année, entraînant un profond débat dans l'opinion. Le roi Mohamed VI doit prochainement étudier les propositions émises à sa demande par les ministères de la Justice et des Affaires islamiques, ainsi que par le Conseil national des droits de l'homme. Donc il dit, ce monsieur ministre de la Santé, « Je suis médecin et citoyen avant tout. Pour moi, la femme devrait disposer de son corps. Il faut absolument légaliser l'avortement, car ce n'est pas uniquement une question médicale, mais également sociale. » En guise d'argumentaire, M. Louardi évoque le cas d'une femme démunie tombant enceinte d'un enfant dont elle n'a pas les moyens de s'occuper. Comment va-t-elle s'en sortir? Elle doit avoir le droit de décider, avance-t-il. Réagissant en mars à des sanctions prises contre une figure de proue de la lutte contre l'avortement clandestin pour sa participation controversée à un reportage d'une chaîne française, le ministre s'était dit très favorable à l'ouverture d'un débat. Intervenant lors d'un débat national organisé à Rabat, il avait par la suite indiqué défendre fermement la révision urgente de la loi sur l'avortement dans au moins 3 cas, l'inceste, le viol et les malformations fœtales. Ouh, oui, donc faut dire attention, hein, c'est, on n'est pas, c'est pas encore l'avortement par pas, rapport à un choix personnel
voilà,
et tout.
Pas c'est un choix. Voilà, il faut qu'il y ait.
Il y a certaines conditions, hein. Donc dans un pays de 34 millions d'habitants où modernité et conservatisme religieux se côtoient et où les relations hors mariage restent interdites, l'interruption volontaire de grossesse est actuellement passible d'un à 5 ans de prison ferme. Bien qu'aucun chiffre officiel n'existe, des associations estiment qu'entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués chaque jour dans des conditions sanitaires parfois désastreuses. Dans le même temps, les grossesses non désirées renforcent le phénomène des mères célibataires et l'abandon d'enfants jusqu'à 150 par jour,
affirment des ONG. C'est ça aussi le problème, bien sûr.
Voilà.
Tu peux très bien avoir une très jeune femme, ou pas forcément très jeune d'ailleurs, qui n'ait pas été victime d'inceste ni de viol, mais qui tout simplement ne se sente pas en capacité d'élever un enfant. Et effectivement, après, ça crée ce type de problèmes graves derrière, notamment l'abandon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où ça se passe comme ça parce que justement elles n'ont pas ce choix d'interrompre leur grossesse.
Alors c'est pas donc non plus la totale liberté, mais c'est une avancée donc pour le droit des femmes au Maroc.
Voilà, soyons positives. Déjà un petit quelque chose.
Allez, une petite coupure musicale.
C'est parti.
Found myself in a second. I found myself in a second-hand guitar. Never thought it would happen, but I found myself in a second-hand guitar. So I've just got to know, I truly have to know. So you've got to let me know.
It's your love.
That I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor, and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know. But you got to let me know.
It's your love.
Friends I found underground.
êtes toujours sur Stéréo Meuf, sur Radio Escapade, bien sûr, et c'est la dernière émission de la saison, l'émission Summer 2015. Voilà, donc des bonnes
l'émission
nouvelles.
L'émission 6, Sex and Sun.
Voilà, avec des bonnes nouvelles, des poils ou pas, ça dépend. Voilà, c'est l'été, il fait chaud, et je voulais vous présenter un petit blog sympa, mais Audrey également, donc on vous fera une liste qu'on mettra certainement sous le podcast sur Facebook et sur les podcasts de la radio. Des blogs un peu sympas qu'on a trouvés.
Blogs et sites féministes.
Voilà, ou pas, mais autour de, voilà, du sujet, autour de la femme. Parce que je pense, oui, à L'Homme Nouveau, qui n'est pas un blog féministe dont on a déjà, oui, parlé, mais qui aborde quand même le thème voilà, de l'égalité, on dira plutôt égalitariste comme blog, mais c'est assez, assez bien fait. Bah moi j'en ai un là, donc je vais vous lire un petit quelque chose que j'ai pris chez elle. C'est une femme, son blog c'est Raconte-moi l'histoire, tout attaché, donc www.racontemoilhistoire.com, et c'est des voilà, des petites choses, des il y a vraiment de tout, hein, c'est pas uniquement sur les femmes, hein, d'ailleurs. Voilà, moi j'en ai sélectionné quelques-uns un peu comme ça qui me paraissaient rigolos pour cette dernière émission, on avait un petit peu envie de se poiler.
Alors raconte-moi l'histoire.
Alors quelle histoire tu veux que je te raconte l'histoire du clitoris?
Oui.
Alors voilà, raconte-moi l'histoire du clitoris. Bon, je vous passe, c'est en général c'est long. Donc moi j'ai fait une petite sélection, j'ai pris des passages, hein, de chaque histoire, mais vous pouvez tout à fait y aller pour lire dans le détail. Donc moi je vous ai passé là sur ce thème, l'Antiquité, le Moyen-Âge, où on découvre l'existence du clitoris et son inutilité en matière de reproduction notamment. Bref, j'ai passé pas mal de choses, 19e, bref, et hop, nous voici dans les années 30. 1930, on efface le clitoris à nouveau, mais oui. Parce que voilà, Freud explique que la sexualité clitoridienne est infantile. La seule qui importe est celle de la pénétration vaginale, parce qu'on a toujours besoin d'un vrai bonhomme. Aussi, les petites filles qui stimulent leur clitoris ne font que revendiquer leur envie d'avoir une bite. Voilà, c'est ça. En gros, le clitoris, il doit disparaître. Et les femmes, elles ont besoin de quoi? Eh bien, de thérapie. Eh ouais, business is business, c'est comme ça. Donc, dans les années 30, le monde de la médecine s'est enfin mis d'accord, voilà, sur le fait que le clitoris ne joue absolument aucun rôle dans la reproduction. Aucun. Voilà. L'organe, il est complètement inutile. C'est un gadget égoïste de la femme. Ou pire encore, un moyen contraceptif. Ben oui, la masturbation, elle éloigne de la procréation, tout ça, voilà. Donc le verdict est sans appel. Le mot clitoris est enlevé du dictionnaire, ni plus ni moins.
Carrément ?
Eh ouais, comme si ça n'existait pas. Hop là.
On fait en sorte qu'il n'existe plus.
Il n'existe plus. Alors entre Freud en 1905 et les années 30 où le clito est supprimé du dictionnaire, je vous dis pas. Mais dans les années 60, ça va être encore pire, les filles. Voilà, c'est l'obscurantisme total.
Pourtant, on croyait que les années 60, c'était quand même
c'est un peu plus tard. On n'en parle pas encore, on le touche pas, ça n'existe pas. Voilà. Et puis ouf, finalement, 1969. Il y a la révolution sexuelle. Alors là, on en parle, pas trop quand même, mais surtout, on le touche. Voilà, et c'est déjà pas mal. Voilà, c'était très résumé, la petite histoire du clitoris.
Dans la musique, c'est qui leur porte-parole aux jeunes filles? Enfin, à part le gang des strings, là, Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé. Porte-parole, ben, dis donc, avant de porter la parole, il faudrait peut-être penser à porter une culotte, non, je me dis.
Donc moi je suis tombée aussi, enfin j'ai rencontré plein de sites, plein de blogs là sur internet autour des femmes, très très sympa. Alors il y a le site Poils et Capitons, donc c'est un site féministe à la sauce Cosette, hein. Alors Cosette on en a parlé, hein, le magazine mensuel plus féminine du cerveau que du capiton justement. Ah ouais. Il y a aussi le site, enfin un blog participatif qui s'appelle Le Corps des Femmes, où là des femmes, ce sont des témoignages classés par partie du corps, donc il y a le ventre, les seins, les reins, voilà. Bon, j'en ai lu quelques-uns, témoignages, c'est pas super fun, hein, quand même.
Celui de lequel, tu dis, qui est
c'est
pas très fun?
C'est Le Corps des Femmes, donc un blog participatif, où c'est un peu témoignage des femmes qui racontent un peu leur corps malmené. Voilà. Y a un site féministe très sympa qui s'appelle Les Ours à Plumes. Alors, ours au féminin pluriel. Voilà. Dont je vais vous lire un petit article sur le consentement. Alors le consentement, c'est pas, là je parle pas de mariage, hein, je parle de consentement, tu sais, par rapport à un rapport sexuel. Parce qu'en discutant des fois avec des copains, des copines, quand on parle par exemple du viol, pour beaucoup de gens, et même des femmes, le viol est un acte sexuel subi avec violence, alors que c'est pas forcément un acte sexuel subi avec violence, c'est aussi, et là je vous donne la définition, hein, de la définition officielle, ouais. C'est un acte sexuel subi soit par violence, certes, ou par surprise, ou par ascendance, c'est-à-dire quelqu'un, un patron, un père, un, ouais, quelque chose, tu vois. Ou parce que t'es inconscient, t'es trop bourré et que t'as pas donné ton accord, mais tu dors, voilà. Ouais. Ça c'est par surprise. Donc, ce site, Les Ours à Plumes, a comparé, en fait, a fait une métaphore entre le consentement et la tasse de thé. Alors, je vous le lis. Comme une tasse de thé, le consentement, c'est pas compliqué. Apparemment, beaucoup de mecs, vraiment beaucoup, ne captent pas ce que consentement veut dire. En effet, il semble que les gars ont un vrai problème à comprendre qu'avant de coucher avec quelqu'un, et ce à chaque fois que ça se pose, il faut s'assurer que cette personne a également envie de coucher avec vous. Pourtant, c'est vraiment pas très difficile comme concept. Vraiment, si t'es encore en train de galérer à essayer de comprendre, imagine qu'au lieu de proposer du sexe, tu proposes une tasse de thé. Tu dis « Hé, tu veux une tasse de thé ?» et elle te répond « À fond, oui !» Je kifferais grave une tasse de thé. Merci. Tu sais alors qu'elle veut vraiment une tasse de thé. Si tu dis, hey, tu veux une tasse de thé? Et qu'elle répond, ou qu'elle dit, je ne suis pas vraiment sûre. Tu peux aller faire une tasse de thé ou pas. Mais tu es conscient qu'elle pourrait au final ne pas la boire. Et si elle ne la boit pas, c'est ça l'important, tu ne lui feras pas boire de force. Tu ne peux pas la blâmer parce que tu as fait du thé, pensant que peut-être elle en voudrait. Tu acceptes juste le fait qu'elle ne va pas en boire. C'est pas parce que tu l'as fait que ça te donne le droit de la voir en boire. Si elle te dit « Non, merci », ne fais pas de thé. Pas du tout. Non, non, ne lui fais pas de thé. Ne lui en fais pas boire non plus. Et ne râle pas qu'elle en veut pas. Elle n'en veut pas, c'est tout, ok?
C'est clair.
Elle pourrait aussi dire « Oui, merci, c'est gentil ». Et puis, quand le thé arrive, en fait, elle n'en a plus du tout envie. Bien sûr, c'est super chiant, vu que tu as fait l'effort surhumain de mettre un sachet de thé dans de l'eau chaude et même de mettre un peu de lait. Mais elle garde malgré cela la totale liberté de ne pas boire le thé. Elle voulait du thé, maintenant elle n'en veut plus, c'est tout. Parfois, la vie des gens change. Même juste dans le petit temps qu'il faut pour que quelques décilitres d'eau boue. Et il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde peut changer d'avis et ça ne te donne toujours pas le droit de la voir boire du thé. Quand bien même tu as pris la peine de le préparer.
Eh oui, ça marche aussi avec le café, non?
Voilà, ça marche aussi avec le café. Si elle est inconsciente, ne lui fais pas boire de thé. Inconscient, les gens ne veulent pas de thé et ne peuvent pas répondre à la question « tu veux du thé ?» Justement parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être était-elle consciente quand tu as demandé si elle voulait du thé et elle a répondu « oui ». Mais dans le temps qu'il a fallu pour que tu ailles faire bouillir de l'eau et que tu te mettes un sachet et que tu ajoutes un peu de lait, elle a perdu conscience. Là, tu mets le thé de côté, tu l'installes confortablement en t'assurant que la meuf n'est pas en train de faire un coma ou autre. Et, chose importante, tu ne lui fais pas boire de thé. Elle avait dit oui, bien sûr, avant. Mais les gens inconscients ne veulent pas de thé. Je t'assure, les inconscients ne veulent pas de thé. Tu peux me faire confiance sur ce point. Si une meuf a dit oui à un thé, a commencé à le boire et s'est évanouie, ou a reposé la tasse et ne boit plus dedans, ou se retrouve complètement amorphe avant d'avoir fini la tasse, ne lui fais pas finir le thé en le faisant couler à sa place dans sa gorge. Reprends ton thé et assure-toi juste qu'elle va bien. Si une meuf a dit oui à un thé chez toi la semaine dernière, cela ne signifie pas qu'elle en voudra tout le temps. A priori, elle ne souhaite pas que tu viennes de manière inattendue chez elle pour lui faire du thé et la forcer à en boire avec l'argument « mais la semaine dernière, tu en voulais ». De la même manière, les meufs n'aiment pas se réveiller avec du thé qui leur coule dans la gorge sous prétexte qu'on a déjà bu un thé ensemble hier soir. Cette analogie est stupide. Vous savez bien tous que jamais vous ne forceriez une meuf à boire du thé sous aucun prétexte, y compris celui qu'elle en boit à chaque fois que vous vous voyez. Bien sûr, vous ne verseriez pas de thé dans la gorge d'une meuf inconsciente parce qu'elle avait dit oui, qu'elle en boirait bien un avant de perdre connaissance. Donc, si vous pouvez comprendre à quel point il est complètement ridicule d'obliger des gens à boire du thé quand ils n'en veulent pas, et que vous êtes totalement capable de comprendre quand les gens n'en veulent pas, pourquoi cela devient-il si difficile de comprendre la même chose quand il s'agit de sexe ? Sur ce, je vais me boire une tasse de thé.
Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
C'est quoi ton nom ?
Cold Princess.
T'as quel âge ?
Qu'est-ce que ça peut te faire ?
Tu veux un cachou ?
Non merci, je ne suis pas très pauvre. J'ai fumé du pot, c'est marrant mais ça rend pas causant. C'est comme l'op, tu sais ?
Non, je sais pas.
J'ai tâté du kiff aussi. Bof, il y a toujours ces hippies, je dors pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux, c'est...
Tu veux un cachou ?
Non merci, je ne suis pas très drogue. Avec mon chien Otis, je le sors le matin, on vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable une heure ou deux avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque, et là sur la plage, on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière, jusqu'au petit matin et les couleurs explosent.
Un cachou.
Non merci, je ne suis pas très drôle. Là sur la plage, quand le vinyle crépite sur la platine, ça fait... Si j'ai choisi mon château bleu, je twiste en regardant le ciel et la tête dans les étoiles, je ferme mes yeux. La lune est mauve et les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la flotte explose en mille petits morceaux d'étoiles. Je sens qu'il est temps et je rentre me coucher.
Tu devrais prendre un cachou, tu sais.
Non merci, je ne suis pas très drôle.
C'était
non, merci,
qui ?
Merci, je ne suis pas très drogue. Los Piriminianias, je ne sais plus.
Ok, c'était sympa.
On vous fera, je vous mettrai la programmation musicale pareil à la suite du podcast. Voilà, hein, que vous ayez toutes les infos sur les morceaux qu'on passe dans l'émission. Un autre petit truc de Virginie Despentes que j'ai retrouvé, mais c'est vieux, ça a 10 ans, cet extrait de King Kong Theory qui avait été publié en 2006 chez Grasset.
Oui, c'est sur. Elle raconte en fait l'histoire de son viol.
Voilà, je n'ai pas lu le bouquin, j'ai chopé un petit extrait sur le site justement du MacVal, donc du Musée d'art contemporain de Marne-la-Vallée. Parce qu'il y a une expo actuellement dont je vais vous parler.
Tu veux
parler.
Dire qu'à Marne-la-Vallée, il y a autre chose que Disneyland ?
Exactement, il y a un super musée. Voilà, incroyable. Pour une fois, un peu de décentralisation, pas trop loin quand même de Paris. Mais oui, c'est un très beau musée. Il ne faut pas le rater. Si vous passez par Paris, c'est pas loin. Et au lieu d'aller voir Mickey, allez voir de l'art contemporain. Donc, à l'occasion de cette expo, le commissaire de l'expo donc, a mis insérer quelques citations de Virginie Despentes, dont celle-ci, extraite donc, de King Kong Theory. Ils aiment parler des femmes, les hommes. Ça leur évite de parler d'eux. Comment expliquer qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité ? Eux qui sont si bavards et si compétents quand il s'agit de pérorer sur les femmes. Pourquoi ce silence sur ce qui les concerne ? Car on sait que plus ils parlent, moins ils lisent. De l'essentiel, de ce qu'ils ont vraiment en tête,
de quelle autonomie les hommes ont-ils si peur qu'ils continuent de se taire, de ne rien inventer, de ne produire aucun discours neuf, critique, inventif sur leurs propres conditions? À quand l'émancipation masculine? À eux, à vous de prendre votre indépendance. Bon, je trouvais que c'était pas mal comme texte. Il y a 10 ans depuis, il y a eu des choses quand même.
Oui,
quand même.
Et puis il y a le site de l'Homme Nouveau.
Le fameux site de l'Homme Nouveau qui est une réponse un petit peu à ça encore. Finalement. Ouais. Mmh. 10 ans après quand même, oui, on a quand même évolué. Donc cette expo, le MACVAL, donc Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne, présente donc jusqu'au 30 août de cette année. Donc vous avez le temps si vous passez par Paris cet été. Il propose donc une exposition thématique intitulée « Chercher le garçon ». Alors c'est une exposition à l'occasion, bon, ça célèbre en fait les 10 ans du musée. Hein. C'est un rendez-vous parmi la programmation qui célèbre ces 10 ans. C'est une exposition collective d'artistes hommes. Et en fait, c'est une exposition qui interroge sur qu'est-ce qui définit la masculinité aujourd'hui, justement. Comment proposer des alternatives à la figure du mâle dominant dans la société patriarcale, parce que c'est pas forcément facile non plus pour les garçons, il faut quand même le dire. Et donc, pour répondre à ces questions, il y a plus d'une centaine d'artistes hommes qui sont exposés, qui sont autant de réflexions, de pistes de réflexion autour de modèles culturels de la représentation masculine. Voilà. Donc, ça fait tomber quelques idées reçues, quand même, assez tenaces en général. Et je voulais aussi vous citer un petit extrait du mot de Franck Lamy, qui est commissaire de l'expo, donc de cette fameuse exposition « Chercher le garçon ». Donc voilà, lui, ce qu'il dit, c'est que cette exposition réunit une centaine d'artistes mâles qui, d'une manière ou d'une autre, interrogent et déstabilisent les modèles établis. Rejetant tout autoritarisme, questionnant les valeurs traditionnellement associées à la masculinité, donc efficacité, autorité, héroïsme, conquête, force, etc., etc., et j'en passe, les œuvres rassemblées proposent toutes des stratégies en fait de redéfinition, on dira, de la masculinité. Le masculin y est mis en question. L'anthropologie nous a appris, donc c'est ce qu'il dit toujours, que la différence minimale et irréductible entre le mâle et la femelle, elle tient dans les différentes places occupées dans la chaîne de procréation. Hein, on en revient souvent à ça, au niveau anthropologique, je veux dire. Le reste, donc, c'est la construction sociale qui est ancrée et dépendante des lieux, des époques, des cultures, etc. Donc voilà, cette exposition, elle développe une approche qui est tournée vers des artistes, des œuvres qu'on peut tout à fait voir et ressentir à partir de théories et de postures féministes, voilà, depuis les années 60, ou comment le féminisme envisagé comme une entreprise de déconstruction des systèmes de domination de tous ordres, pas seulement du système patriarcal, comment ce féminisme irrigue la création contemporaine et également la création masculine, on dira, de ces fameux artistes qui se sont aussi forcément inspirés de tout ça dans cette exposition. Voilà. Donc, alors, évidemment, ça règle pas la question de la relation homme-femme, etc., ni la question du féminisme comme une entreprise de résistance à toute forme de domination, etc. Hein, c'est pas montrer des hommes qui défendent le féminisme, ou c'est pas tout blanc, tout noir. Mais c'est assez. Enfin, j'ai vu quelques images et quelques critiques, et ça a l'air ça a l'air vraiment intéressant. Vas-y, Audrey, oui.
Tu rappelles quand et où?
Alors, donc, c'est au MACVAL, on l'appelle comme ça, le Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne, jusqu'au 30 août 2015.
Très bien. Voilà.
Donc, je vous invite à faire un petit tour de ce côté-ci, à côté de Paris.
Et c'est l'heure de d'arrêt de Jeanne ?
Écoute, ouais. Allez, on se fait un petit compte. Hop.
Adolescente, j'étais déjà très allumeuse. Mais je sortais déçue d'aventures hasardeuses. Je n'avais peur de rien. Mais je ne savais pas jouir. J'étais prise par des chiens ivres de leurs désirs qui ne me donnaient rien à part des coups de rein et me laissaient perplexe sur les plaisirs du sexe, d'autant que le sida planait sur nos ébats. Ma mère me confortait dans mes doutes sur les hommes, cette race inférieure aux vils appétits. Elle qui n'a jamais joui, ou alors sans personne, mais qui sait aimer l'autre plus que sa propre vie, ne pouvait pas vraiment respecter ces bons hommes qui trahissent leur foyer pour des histoires de lit, comme son père en somme et comme le mien aussi. Ma grand-mère disait qu'il y a des pratiques réservées aux putains. Ma mère, pragmatique, après mai 68, est devenue plus souple pour sauvegarder son couple. Mais en vain. Moi, je ne voulais pas croire à une malédiction. Et comme elle, j'ai connu une grande passion. À 20 ans. À 20 ans, j'ai aimé comme on aime à 20 ans, pour toujours, sans douter d'avoir le prince charmant couché à mes côtés. Ça a duré 10 ans. Et le rêve a fini. Je me suis réveillée seule et déjà vieillie, avec en héritage cette conscience nouvelle. Oui, nous étions fidèles. Mais nous étions frustrés. Les non-dits gouvernaient notre sexualité. Et moi, j'étais en âge d'aimer la liberté. Me voici donc maintenant, typique échantillon d'un monde en mutation. Une femme de 40 ans, active, célibataire, autonome, sans enfant. Une femme qui aime plaire et prendre les devants. Qui peut parler sans peur de ses vibromasseurs, qui assume ses fantasmes et qui a des orgasmes. Et là, c'est la panique. De conquérants, les hommes, tout à coup se transforment en biches effarouchées sous mon œil enflammé. L'impuissance les guette. En secret, ils regrettent le temps des belles timides. Fussent-elles timorées? Et fussent-elles frigides? Et moi, je me refuse à jouer l'indifférence lorsque je suis séduite. Attendre des avances? Quand j'ai envie, si vite, de goûter une peau, de donner tout, tout de suite? Mais ça me joue des tours. Et ils prennent la fuite au lieu de faire l'amour. Déçu, que dis-je déçu? Traumatisé par mon manque de retenue, ils ne me désirent plus et gardent le souvenir d'une salope nympho, d'une sorte de vampire qui fait froid dans le dos. Si, si, les mœurs évoluent. Point trop nympho, pourtant. Les femmes sont mieux perçues si elles n'ont qu'un amant. Si elle baisse les yeux quand elle suce des queues, et si la sodomie les effraie un petit peu. Femme libre, mes sœurs, je ne crois pas trahir le secret de vos cœurs en avouant pour finir que malgré nos progrès sur la voie du plaisir, notre nature de femme, et c'est tout notre drame, fait que nous n'aimons jouir vraiment qu'avec notre âme, quand l'amour est la trame où se tissent nos désirs, et quand l'autre est la flamme où nous voulons mourir.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Mon fils a une bite énorme. Ça, il faut vraiment pas le dire.
Vous êtes toujours sur Radio Escapade avec les stéréomeufs, Audrex et Miska, au 103.3, 104.1, 102.rien ou radioescapades.org pour le reste du monde. Karine, tu voulais nous parler des filles qui font du skate à Kaboul.
Oui, tout à fait, puisqu'on vient d'entendre cette gourmandise de Colette Renard.
C'était bon.
On a parlé de l'histoire du clitoris. Ça tombe bien parce que ça n'a rien à voir avec le skateboard. Mais avec le vélo, voilà. Et le vélo, comme chacun le sait, pour les femmes, c'est interdit à Kaboul.
En Afghanistan.
Kaboul et en Afghanistan.
En fait, ouais. Les femmes ne doivent pas faire du vélo au cas où, je sais pas, ça leur procurait du plaisir, tu vois, par exemple.
On sait jamais, ouais.
Donc, quand même, elles ont d'imagination, les nanas, parce qu'elles disent, si on peut pas faire de vélo, ben, on va faire du skate.
Alors, en fait, ce projet, c'est un qui s'appelle Skateistan. C'est un projet allemand qui est mené quand même depuis 2007. Ça fait un moment qu'ils y sont, à Kaboul. Donc c'est mené par Oliver Perkovic et ce projet entend faire découvrir à de très jeunes Afghanes l'art du skateboard. Donc à travers cette initiation au sport, l'idée de cette ONG, c'est une ONG, est de permettre à ces enfants de s'initier à une autre culture, de changer d'air le temps de ces sessions de skate et de prendre confiance en soi aussi, tout simplement. D'autre part, l'organisation milite aussi évidemment pour le droit des femmes et pour l'égalité des sexes. Voilà, il y a sur leur site, je vous mettrai le lien là sur Skateistan. Il y a vraiment toutes les infos sur ce qu'ils font parce que c'est pas uniquement à Kaboul. Depuis, se sont développés aussi au Cambodge et en Afrique du Sud. Voilà, et c'est vachement bien. Enfin, je trouve que c'est une chouette initiative. Et moi, je l'ai découverte sur quel site sur Nova Planète, peut-être un truc comme ça. Un de ces sites-là, je ne sais plus où Slate. Enfin, je vous mettrai le lien. Et en fait, je l'ai découvert à travers les photos de Jessica Fulford Dobson, qui est donc une photographe qui est allée à la rencontre de ces jeunes filles qui ont participé à ce projet. C'est vraiment chouette ce qu'elle a fait et il y a eu à cette occasion à la galerie Saatchi à Londres une chouette expo donc de son travail sur ce sujet, précisément sur ce projet Skateistan à Kaboul.
Elles s'insultent toutes seules, les jeunes filles, maintenant, du coup. T'as vu les nouveaux petits colliers qui sont sortis avec écrit connasse, comme ça. Mettre ça. Ouais, connasse. Les t-shirts aussi, n'importe quoi, les t-shirts First Class Beach, j'ai vu. Salope de première classe, et ouais.
International toujours à Mexico. Alors ça, c'est un article que Joël Lachaud, notre collègue de Coup de Torchon, m'a envoyé par mail, donc qui est tiré du Monde, d'un Monde du mois d'avril, je crois. L'article est intitulé « Mexico s'accorde en genre et en nombre ». À Mexico, maintenant, on peut, pour quelques pesos, vraiment pas cher, on peut choisir l'état civil. Donc, si on veut être un homme ou une femme, mais sans opération, sans analyse médicale, sans rien. C'est-à-dire que moi, demain, à Mexico, j'ai envie d'être appelé monsieur. Eh ben, je vais à l'état civil. Je paye quelques pesos et je me fais appeler monsieur. Voilà. Et ils ont également autorisé ça à l'île de Malte.
Là, quand tu parles, de Mexico, c'est la ville de Mexico.
C'est la ville de Mexico.
C'est le seul État du Mexique, parce que le DF, c'est Distrito Federal, c'est un État. Que la ville de Mexico, tellement elle est grande, plus de 20 millions d'habitants, c'est le seul qui est aux mains de la gauche dans le pays. Voilà, faut quand même peut-être le préciser parce que ceci explique un peu cela. Ça n'existe que dans la ville de Mexico.
Un nouveau genre, un nouveau prénom pour 12 euros seulement. Une visite au registre civil et l'acquittement des taxes administratives de 203 pesos sont les seules étapes à franchir pour changer officiellement de genre à Mérico. Le féminin ou masculin est déterminé par la simple volonté du sujet, sans expertise médicale ni décision d'un juge, comme c'était le cas sous la législation antérieure. Et donc, je disais aussi juste avant qu'à l'île de Malte, c'est comme ça. La démarche est également très, très simple. Et pareil, sans analyse et tout ça, tu peux...
C'est joli. C'est une petite musique qui vous rappelle que vous êtes sur Radio Escapade dans Stéréo Meuf. Et si vous passez au rayon surgelé... Ouais, c'est les aléas du direct, c'est comme ça, puis c'est la dernière.
Non,
ouh,
non, on est fou. Coupera, on
mais
coupe.
Non, on coupera pas.
Si, on la coupe. Fête. Non, non, mais tu rigoles. Donc à l'île de Malte, la démarche est également très simple. Alors c'est pareil, tu peux changer, tu peux choisir de te faire appeler monsieur ou madame sans te faire opérer. Hein, donc moi demain je vais à l'île de Malte et je décide de me faire appeler monsieur. Alors c'est marrant parce que cette île a autorisé le divorce il y a seulement quoi 15-20 ans. L'avortement y est toujours interdit. Mais voilà, je trouve ça bizarre. Mais tu peux choisir, ouais, ouais. Tu peux choisir ton genre. Bon, bah voilà, c'est d'accord. Comme ça. Sinon aussi, j'ai une dernière petite brève, et cette fois-ci qui nous concerne, Cocorico. L'Église protestante unie de France permet désormais de bénir les couples homosexuels. Donc l'Église protestante unie de France a adopté dimanche 17 mai la possibilité de bénir les couples homosexuels mariés. Sur la centaine de délégués de l'Église protestante unie de France réunis à 7 ayant pris part au vote, 94 ont voté pour la possibilité d'une bénédiction et 3 contre, donc quand même une écrasante majorité. Et au cœur d'une décision de 4 pages, il a notamment adopté le paragraphe suivant. Donc je cite, « Le synode est soucieux à la fois de permettre que les couples de même sexe se sentent accueillis tels qu'ils sont et de respecter les points de vue divers qui traversent l'Église protestante unie. Il ouvre la possibilité pour celles et ceux qui y voient une juste façon de témoigner de l'Évangile, de pratiquer une bénédiction liturgique des couples mariés de même sexe qui veulent placer leur alliance devant Dieu. » Donc ben voilà, c'est pour dire aux copains, copines qui veulent se marier, qui veulent faire un mariage à l'église comme dans les films. Ben l'église catholique hein, c'est toujours pas possible. l'islam c'est toujours pas possible, mais vous pouvez vous marier chez les protestants si vous voulez.
Ah, on va se convertir alors. Et puis, dans ce stéréomeuf Sea, Sex and Sun, il y a Sea. Hein, et dans Sea, eh bien, il y a les flots bleus, la mer, le sable, tout ça. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que grâce à une invention, actuellement, nous les femmes, quand nous avons notre cycle, donc je ne parle pas de vélo, hein, quand nous avons donc notre cycle, nous pouvons enfin nous baigner tranquillement sans se faire de soucis. Et justement, parlons-en de cette invention du tampon, hein, toujours sur le blog Raconte-moi l'histoire. Si tu me racontais l'histoire du Tampax, eh bien, depuis toujours, la femme a ses règles. Je sais, c'est pas correct en histoire de dire depuis toujours. Mais là, pour le coup, franchement,
c'est vrai.
Les menstruations,
je ne fous pas le tir.
Les cycles, hein, comme je disais, pas les vélos. J'y reviens. Elle est vraiment pas bonne cette vanne. C'est pas grave. Je continue. Les ovaires et les utérus, tout ça, et ben ça existe, depuis autant de temps que la femme. Donc depuis toujours. Oui, j'insiste. Chaque 28 jours, c'est la même chose, du sang s'écoule. Aujourd'hui, on fait toutes les belles avec notre Moon Cup et autres tampons bio qui préservent vagin et environnement, mais ça n'a pas toujours été si simple. Allez, je vous raconte un petit passage, allez, l'Antiquité, puis on ira peut-être jusque dans les années 30. Antiquité, tu prendras bien un morceau de bois dans le vagin, hein? Eh oui,
non,
les égyptiennes, je vais t'expliquer ça, en avance sur leur temps, étaient très branchées insertion vaginale, déjà, à la base, les égyptiennes, voilà. On a déjà vu qu'elles utilisaient des petites boules de cuivre comme moyen de contraception. Eh bien, je vous apprends aujourd'hui qu'en période de règles, elles concevaient des tampons périodiques avec du papyrus ramolli. Ingénieux, hein ?
Elles étaient trop fortes, les égyptiennes.
Grave. Et dans le monde grec, Hippocrate nous apprend au 5e siècle avant notre ère, les femmes confectionnaient des tampons pour absorber leur flux avec des morceaux de bois entourés de fibres. Et enfin, à Rome, on utilisait, paraît-il, de la laine. Ouais, ça picote. Au Japon, du papier.
T'en sais rien, moi j'ai jamais essayé, hein, perso.
Ça peut être du cachemire. Au Japon, du papier. En Indonésie, des fibres végétales. Ou encore en Afrique équatoriale, des rouleaux de gazon.
Alors, et Vania, ils utilisent la sphaigne. Rappelle-toi la pub.
Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On fait comme on peut. Malheureusement, avec la prise d'ampleur de la religion monothéiste, on y revient, eh bien, on a régressé. Oh oui, le tampon, c'est terminé. Se glisser quelque chose dans le vagin, non mais ça va pas, c'est péché, bordel. Je vous passe le Moyen-Âge et les horreurs qui vont avec, parce que là, franchement, allez le lire toute seule. Et hop, youpi, nous voici dans les années 30. En 1929, le médecin américain Cleveland Haas, c'est pas les... C'est pas... J'allais dire une connerie encore.
Non.
Reçoit une de ses patientes qui lui avoue se glisser un morceau d'éponge dans le vagin chaque jour de ses règles pour absorber le sang. Malin ! Le mec se dit qu'il y a peut-être un business à faire. Il va alors créer un premier modèle de tampon en coton comprimé, pardon. Et attention, le tube fait 5 cm de large pour 15 cm de long.
Waouh !
T'imagines.
Alors, tu marches comme un cow-boy, là.
Ouais, si t'imagines pas, je t'explique. Le diamètre moyen d'un sexe mâle en érection, c'est 3 et quelque chose de centimètres et 14 centimètres de long en moyenne. Tu vois ? Voilà. Donc, 5 fois 15 toute la journée quand t'es au boulot, supermarché, n'importe où.
Ça peut être un peu gênant.
Ça dépend comment on le voit. Voilà. Mais ça peut être un peu gênant aussi, quand même. Voilà. Donc, outre la taille, le mec, il a pensé à tout, quand même. Il a créé un applicateur composé de 2 tubes. Bon, pour celles qui connaissent, hein, voilà. Le premier pour tenir le tampon, le second plus petit pour le mettre en place. Et bon, voilà, donc ça c'est assez pratique, c'est vrai. Et enfin, donc les tampons sont munis d'une petite cordelle, une petite ficelle, on appelle ça une cordelle, pour pouvoir être retirés facilement.
Tirer la chevillette.
Franchement, hein. Voilà, donc finalement, le mec qui va commercialiser son invention en 1936 et en créant cette fameuse marque
Tampax.
Que nous connaissons toutes.
Voilà. Ah mince, faut pas le dire, pardon.
Bof, ouais, mais en même temps. Hein. On la connaît toute. Voilà, donc, et oui, et le Tampax, justement.
Et pendant vraiment, ce temps, pendant...
C'est les vannes à deux balles.
Le Tampax. Oui, bah, je voulais rebondir sur ça. Il y a un article dans le dernier Causette, là, qui intitulé « Voile intégrale pour vagin ». Je vous conseille de le lire.
D'accord.
C'est assez rigolo, justement. C'est encore... Elle se fout bien de la gueule de Nana qui vient d'inventer un voile pour vagin. Enfin, je vais pas développer
ouais,
là.
Tu développes pas. Bon, bah surprise.
Non, de toute façon, t'as ton Causette chez toi, t'as qu'à le lire. Voilà.
Ouais, bon, exactement. Bah, voilà. J'ai mon Causette chez moi et chacun son Causette.
Mais c'est très drôle. Voilà, on a trouvé le voile intégral pour vagin maintenant. Voilà. Et en tant que c'est pour les fins de règles et tout. Enfin, vous verrez l'article. Je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Déjà.
Ouais, puis de nous quitter pour longtemps là, pour au moins 2 mois, parce que.
Bah oui, parce qu'on part en vacances. Quoi.
On part en vacances. On va certainement renouveler l'aventure, hein. Si ça vous a plu, les premiers 6 épisodes de Stéréo Meuf, bah on reprendra ça en septembre. Et puis on remercie toutes les femmes de Radio Escapade qui ont participé en nous offrant un édito. Voilà.
Oui.
Le dernier aujourd'hui, c'était donc à nous qui
des éditos
ici,
très beaux, très touchants, vous connaissez des fois
sa
aussi.
Voix. Voilà, ce qui nous ont souvent émus, qui nous ont fait sourire, enfin en tout cas qui étaient toujours très justes. Et voilà, et merci à ceux qui sont venus dans l'émission.
Et merci
puis,
à Darejan de nous avoir prêté ses beaux comptes.
Voilà, et puis à vous, auditrices et auditeurs, on espère vous retrouver après l'été. Merci Audrex pour ces 6 mois d'aventure plus féminine du cerveau que du capiton.
Voilà, et merci Miska, et on vous retrouve donc dans quelques mois.
Voilà.
Ciao.
Bel été à vous tous. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à podcaster les 6 émissions de la saison 2015 qui sont en ligne sur le site de Radio Escapade. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all
woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.